Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Nous sommes le vendredi 8 septembre 2017 dans le West Side de Chicago. Il est 23h30, Kenika, 19 ans, a réuni trois amis qui, selon les versions de l'histoire, ont l'intention d'aller au cinéma ou de sortir fêter le nouveau job que Kenika vient de décrocher. En chemin, les quatre jeunes femmes changent d'avis et décident finalement de se rendre à une fête d'anniversaire dans un hôtel, le Crown Plaza O'Hare Hotel, à Rosemont, dans la banlieue de Chicago. Sur la route, elles s'arrêtent chez un ami pour s'équiper et passer en mode fête. D'après un podcast québécois, The Distortion Podcast, qui a reconstitué la soirée minute par minute, elles emportent une enceinte Bluetooth, une bouteille de cognac, des boissons énergisantes et de la marijuana. Les fêtardes arrivent ainsi à l'hôtel à 13h du matin. Elles montent au 9e étage, chambre 926, où se déroule la soirée. À 3h du matin, elles sont fatiguées et veulent rentrer. Mais dans l'ascenseur, Kenika se rend compte qu'elle a oublié plusieurs affaires dans la chambre. Ses amis se proposent d'aller les chercher pour elle, ce qui n'est pas très clair. Pourquoi n'y va-t-elle pas elle-même ? Toujours est-il que lorsqu'elles reviennent, Kenika n'est plus là. Elle ne réapparaîtra jamais. Toute la nuit passe, puis la journée, jusqu'à ce qu'on la retrouve morte dans le congélateur de l'hôtel. Que s'est-il passé ? Comment peut-on se retrouver à 3h du matin dans un congélateur ? La jeune fille était-elle tellement ivre ? Quelqu'un a-t-il refermé la porte de l'énorme armoire à congélation sur elle, exprès ou pas ? Les premières enquêtes affirment que sous l'effet de la drogue et de l'alcool, Kenika aurait confondu la porte du congélateur et celle de l'ascenseur. L'affaire passionne d'autant plus le public que la soirée a été presque intégralement postée sur les réseaux sociaux par des invités qui, comme il se doit, ont passé la moitié de leur nuit à se filmer et à se prendre en photo. Les images deviennent virales, celles de la vidéosurveillance qui montre Kenika titubant dans les couloirs circulent aussi et toutes suscitent des interprétations toutes plus farfelues et contradictoires. Les enquêteurs finiront par conclure à un accident et la famille fait aujourd'hui appel et réclame 50 millions de dollars à l'hôtel de dommages et intérêts. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, quatre autres histoires de fêtes qui tournent mal et elles sont racontées par Alice Babin.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Moussa, j'ai 29 ans. Je suis consultant en management. Alors l'histoire remonte à mai 2013, soir de mon anniversaire. Comme régulièrement dans mes anniversaires, on fait ça sur les bords des quais de la Villette. Et là, je pense qu'on était une bonne cinquantaine. Voilà, c'est des mecs du sud-ouest d'où je viens, c'est des Parisiens, c'est des personnes que j'ai rencontrées à l'étranger lors de mes études, de mes boulots. Et c'est toujours très bonne ambiance, c'est détendu, on mange bien, on boit bien, on se marre bien. J'étais plutôt bien sapé. J'avais un complet jean avec un nœud pape en cuir noir et des pompes noires et une chemise blanche, bouton de manchette. Donc voilà, donc du coup la soirée se passe vachement bien. Arrive à peu près 1h30, donc le temps de sortir. Là du coup le groupe se motive petit à petit, donc c'est toujours un petit peu lent de faire bouger tout le monde. Et il y avait un groupe qui traînait un peu plus à l'arrière et qui était monté sur un bateau pour se marrer. Je vais les chercher, mais je sentais qu'il se tramait un truc derrière. Donc j'ai un de mes potes, Martin, qui revient avec mon autre pote, Louis. Et ils reviennent super contents avec une énorme bouée de sauvetage. Ouais. Et là, c'était trop bien parce que du coup, tout le monde avait signé sur la bouée. Donc c'était un peu mon gros cadeau d'anniversaire de la soirée, un peu improvisé. C'était cette bouée-là signée par tous mes potes avec des joyeux anniversaires, etc. Donc j'ai trouvé ça très drôle. Je l'ai mise autour de mon cou et puis on est parti en boîte avec. Et là, à ce moment-là, j'avais un seul souci, c'était de se dire, est-ce que ma bouée passera au vestiaire ? Et en entrant, en fait, oui, en fait, elle passait au vestiaire, il me la prenait pour 2 balles, donc ce qui est pas cher pour une bouée. Par contre, j'avais pas de monnaie pour prendre des verres ensuite. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais retirer quand même, 20, 30 balles. Donc du coup, je fais demi-tour, je vais au distributeur. Là, j'ai toujours la bouée autour du cou. Et là, en fait, j'entends un énorme coup de frein à main. Et d'un coup, là, je comprends pas ce qui m'arrive et je me retrouve plaqué contre un mur avec des flics dans le dos qui me disent bouge pas, enfin voilà, qui me gueulent autour. Du coup, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Donc, ils me posent tout un tas de questions, comment tu t'appelles, où t'habites. Et ensuite, ils me posent la question de la bouée. Bah, je dis, bah, c'est mon anniversaire, mes potes me l'ont ramené pour mon anniversaire, je sais pas d'où il vient, mais voilà, vous voyez, c'est signé, il y a mon nom dessus, enfin, c'est, voilà, quoi. Ils m'ont mis dans la caisse de flics. Et là, je retrouve mon pote Martin, qui m'avait offert cette bouée-là. Et il venait tout juste de se faire attraper, en fait. Et bon, on se dit, on se fait attraper avec une bouée, au pire, ils vont nous interroger, on va repartir, quoi. On arrive au commissariat, on s'assoit sur un banc, on fait un éthylotest. Et en fait, au final, après peut-être un peu moins d'une heure, ils reviennent et ils disent « Martin, bah, vous pouvez partir. » Ok. Et moi, moi, du coup, ils m'ont menotté au banc, en fait. Du coup, je me dis « Ah, là, c'est pas cool. » Donc là, j'attends. Et puis au final, c'est là que tout débute. Je passe pour une fouille totale. Donc là, je suis complètement, mis à nu. Ils me fouillent de A à Z, de tout ce qu'on peut imaginer de A à Z. Ils me ressortent mes lacets, tout ce qui est ceinture, bracelet, boutons de manchette. Donc du coup, en fait, c'était aussi ma chemise qui était fermée par ces petits boutons-là en métal. J'avais la chemise complètement débraillée. Donc j'étais dans le hall du commissariat, attaché à un banc, les mains dans le dos, avec la chemise complètement ouverte, comme un vaurien, quoi. Donc on m'a foutu dans une cellule dans laquelle j'ai attendu plusieurs heures. Donc là, la nuit avait bien débuté. Ensuite, on m'a récupéré. Là, j'ai été de nouveau menotté, escorté par 4 flics. Ils m'ont embarqué dans une voiture de flic pour m'aller me faire faire tout un tas de prises de sang, d'analyses, etc. Tu traverses le hall des urgences. Là, il pourrait y avoir n'importe qui. Il pourrait y avoir ton boss qui s'est blessé, qui s'est coupé un doigt dans la nuit. J'en sais rien. Tu traverses les urgences. Donc complètement débraillé, encore une fois, avec la chemise grande ouverte, les mains dans le dos et 4 flics qui t'escortent pour aller faire tes analyses. Ils me ramènent dans une cellule. Vers 8h du mat, ils me redéplacent dans une autre cellule. J'ai aucune idée de pourquoi. La garde à vue, pour certains, ça peut paraître pas grand-chose quand t'as déraillé, mais quand t'as rien fait, c'est super violent, en fait. Voilà, donc je passe comme ça la nuit, aux côtés de 3 clochards différents, jusqu'à à peu près 15h. J'avais toujours pas dormi, quasiment pas mangé. Et là, à 15h, j'ai mon sauveur qui vient me chercher, un flic qui appelle mon nom. Je me lève, moi j'avais pas dormi, du coup j'étais assis sur un coin en attendant. J'essayais de penser à autre chose, de m'inventer des histoires, de rationaliser le temps, de... Et donc là, il m'appelle, il me dit je viens de prendre mon service, je viens de voir pourquoi vous êtes là. Enfin, c'est n'importe quoi, et vous n'avez absolument rien à faire ici. Je suis vraiment désolé. Et moi, en essayant de comprendre pourquoi est-ce que j'ai passé la nuit et une partie de l'après-midi en cellule, à ça, il m'a répondu, il y a des cons partout. Bonne journée. Et voilà, et du coup, je sors. À ce moment-là, je ne me faisais pas encore de questions de discrimination. Mais en fait, j'ai jamais envie de me monter la tête par rapport à ces sujets-là. Parce que je suis né dans le sud-ouest, je suis grandi dans une école catholique, que mes potes, du coup, ils sont blancs, noirs. Mais j'ai pas fait la relation. C'est après que j'y ai repensé, c'est en discutant avec les autres que je comprends, en fait, pourquoi j'ai subi ça. Et j'ai tellement pas envie de l'entendre, de le penser, de le savoir, je crois, que j'y pense pas. Et la bouée, alors après, j'ai été convoqué 2 semaines après. C'était la procédure classique. J'ai pas pu revoir la bouée, je reviens aimer la revoir. Et là, en fait, du coup, c'était un peu un sketch, parce que pour le commissaire qui était en face de moi, que je sois là face à lui pour une histoire de bouée, d'ailleurs, il m'a accueilli en me disant « Bon, voilà, on se voit pour une sombre histoire de bouée. » Je me rappellerai toujours. Et je fais « Ouais. » Et il m'a juste demandé ce qui s'est passé. Je lui ai raconté, il m'a dit « Ok, bon, bah... » Je pense pas que le propriétaire du bateau porte plainte. Vous recommencerez pas, mais moi, j'ai juste envie de lui dire, recommencer quoi, en fait. Ça a remis vraiment en question ma notion de justice et de confiance dans les forces de l'ordre. J'ai ça en tête, je sais que ça m'a marqué, parce que il y a une semaine, j'ai rêvé que j'étais chez moi et qu'on venait m'arrêter, emprisonner, et que je savais pas pourquoi. Et je comprenais que là, c'était une bonne fois pour toutes, que j'allais pas sortir cette fois-ci, et que je pourrais rien faire parce que ce sera une injustice et face à un système. Voilà, quoi. J'ai fait 2 fois ce rêve-là en 2 semaines. C'est assez bizarre, en fait.
Donc je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans et je suis responsable adjoint d'un point de vente dans la grande distribution. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a une dizaine d'années, quand j'étais encore adolescent, l'année de mon bac au Havre. En parallèle de ça, je m'étais inscrit dans une préparation militaire marine, qui est donc faire ses premiers pas dans la marine nationale de manière volontaire les week-ends et sur les temps des vacances scolaires. Et donc, avec pas mal de gens de ce groupe, on était une quinzaine, on avait bien sympathisé. Et donc, tous les week-ends, on sortait pas mal, on allait souvent en boîte de nuit. Et donc, le fait d'être une quinzaine, ça avait pour avantage que même si on mettait pas des sommes exorbitantes, on avait accès au coin VIP parce que on pouvait prendre plusieurs bouteilles. Donc, avoir un coin un peu à nous, c'est ce qui était un peu plus sympa. Et donc, on est posé dans cette boîte, dans le coin VIP, on profite. La soirée est déjà bien engagée, on est déjà bien éméché. Puis forcément, à force de boire, de danser, il y a le besoin d'aller aux toilettes qui se fait sentir. Je descends les marches pour aller aux toilettes. Et là, l'un des videurs m'interpelle, m'arrête. Et en fait, je peux pas accéder aux toilettes parce que, tout simplement, il y a eu des affaires de deal dans les toilettes. Et les videurs sont dedans avec les personnes qu'ils ont attrapées. Ils sont en train de leur expliquer que ça se fait pas ici. Donc du coup, nous, on peut pas accéder aux toilettes à ce moment-là. Sauf que si on sort, bah, toute sortie est définitive. Et qu'au bout d'un moment, bah, il faut absolument que j'aille aux toilettes, tout simplement. Donc je remonte dans le coin VIP, je me mets tout au fond. Je me cale à un endroit où il n'y a pas trop de monde et obligé, foutu pour foutu, je commence à uriner dans un coin. Sauf que à ce moment-là, il y a un videur qui commence à remonter les marches au loin et donc du coup je le vois, sauf que je peux pas m'arrêter. Donc j'attrape un verre qui traîne, qui est à mi-plein. Je finis mon affaire, il arrive, je fais semblant que c'est mon verre, ça passe, je me fais pas virer, je me fais pas éclater la tête, donc c'est un bon début. Je pose le verre sur la table, je m'allonge un peu, la fatigue, puis l'alcool surtout, qui se fait bien sentir. Et puis là, au milieu du coin VIP, je vois un mec que j'ai jamais vu, qui se pose à la table, puis qui commence à servir dans les bouteilles, dans les verres et tout. Alors bon, je dis trop rien, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu moyen. Et puis à un moment, il s'arrête sur le verre, donc du coup, qui était rempli moitié d'alcool, moitié d'urine, et il me demande ce que c'est. Donc bon, je me dis, allez, je lui explique que c'est un mélange de vodka flambé. Il goûte, il en boit un peu, il trouve ça bizarre, mais il le boit. Donc je rigole un peu sous cap, c'est pas du meilleur goût, mais c'est vrai que ça m'avait pas forcément plu qu'ils viennent taper dans nos bouteilles comme ça. Et là, en fait, débarque une des amies justement du groupe qui se pose avec lui, et en fait je comprends que c'est elle qui l'a ramené parce qu'elle l'avait chopé dans la boîte. Du coup je me sens un petit peu mal, et donc la soirée se termine, et après tout, à l'époque j'avais, enfin mes parents avaient une grande maison à l'entrée de la ville, et ils étaient jamais là le week-end, donc du coup j'avais plusieurs grandes chambres, il y avait des grandes chambres vides, des dortoirs. Donc c'était habituel que tout le monde vienne dormir chez moi, finir la soirée, il y avait des chambres pour ceux qui veulent dormir, donc on rentre tous, on se pose. Et mon amie, donc du coup, me demande si elle peut ramener le type, enfin elle me demande pas vraiment, elle l'embarque, elle le ramène. Je me dis qu'après ce qui s'était passé, je vais rien dire, c'est une façon de faire mon mea culpa. On arrive, ils vont se poser, ils vont dans une chambre avec d'autres gens, ils commencent à faire leurs affaires. Nous, on se pose avec deux autres amis, donc dans ma chambre, pour boire un dernier verre, il était 5h30, 6h du matin. Donc on reprend un dernier verre, et puis là, dans le groupe, il y en a un qui se dit, ah bah, ce qui va être drôle, on va lui faire une blague, on va lui mettre un coup de pression. Mais juste, voilà, on va juste lui faire peur, ça va s'arrêter là. On se dirige vers une armoire où il y a des armes de famille qui sont entreposées. C'est des armes qui servent pas, c'est des vieilles choses, on va dire, qui ont été conservées de génération en génération, ni plus ni moins. Donc ils prennent chacun une machette, et moi je me saisis d'un Colt 38, un revolver donc. Du coup je le décharge, je mets les balles dans ma poche. On monte, on met un coup de pied dans la porte, on rentre en trombe, les gens se réveillent, le gars saute comme un clown de sa boîte sur le lit, très surpris. Du coup, mes collègues le pointent avec la machette, mais tout en étant à une distance à plus de 2 mètres, hein, y avait aucun risque. Et là, notre surprise, le gars se démonte pas, il s'en fout, ça lui fait pas spécialement peur, il dit c'est bon les gars, calmez-vous, allez redescendez, c'est bon, vous êtes bourrés, fin de soirée. Du coup, on est surpris, on a un peu vexé aussi dans notre ego. Du coup, là, je sors le Colt et je le pointe. Et là, encore plus surpris, le mec nous dit non mais c'est bon, range ton pétard, de toute façon, je vois bien, vu que c'est un barillet, on voit sur les côtés, je vois bien qu'il est pas chargé. Alors là, on est surpris et surtout très vexé, hein, à 17 ans, l'ego du mal bourré est facilement contrariable. Du coup, bah, sans ça, ce qui n'était pas prévu, très énervé, je mets une balle dans le barillet, je la fais rouler, je l'actionne. Et je lui dis, bah, maintenant, il y a une balle, on va voir si tu portes toujours tes couilles. Et donc, du coup, le mec me dit, ouais, bah, ouais, ok, il y a une balle. Je me dis, bon, bah, respect, franchement, il est soit très bête, soit très courageux, j'en sais rien, peut-être un mix des deux. Et donc, je lui dis, bah, voilà, maintenant, je te propose un truc. Si tu veux rester dans la chambre avec la fille, moi, je fais une roulette russe, toi, tu fais une roulette russe. Et s'il n'y a pas de souci, bah, tu restes là. Sinon, tu prends tes affaires, tu rentres chez toi. Et le gars accepte. En fait, le jeu de roulette russe, tu faut forcément un barillet de 6 balles. On met une balle dans le barillet, on fait tourner le barillet rapidement et on enclenche dans l'arme. Du coup, on sait pas où se trouve la balle. On charge l'arme, on met contre sa tempe et on appuie sur la gâchette. Et vous avez une chance sur 6 de vous faire sauter la tête. Donc du coup, maintenant, faut aller au bout des choses. Je fais tourner le barillet, je me le mets contre la tempe, je tire un premier coup. Il se passe rien. Et ensuite, c'est son tour. Et donc du coup, moi, encore plus stupide, je me dis, bah non, si je lui file le flingue, à tout moment, il va le retourner contre nous, il nous braque. Donc du coup, je décide, c'est moi qui vais le pointer, il faut la roulette russe. Je tire, heureusement, la balle ne part pas. Sauf que si ça était parti, j'aurais été, c'est moi qui l'aurais tué, parce que ça ne correspondait pas à une roulette russe, vu que c'est pas lui qui se le mettait sur la tempe. Du coup, ça s'arrête là. Il reste là, il a gagné. Tout le monde va se coucher tranquillement. On se réveille le matin, forcément, avec la barre au crâne. Et puis arrive le gars qui descend de la chambre. Je le croise à l'entrée. J'avoue que j'étais... J'avais pas trop... Ouais, j'étais mal. Il y avait du regret. Il y avait surtout cette prise de conscience que là, vraiment, les choses étaient parties loin et auraient pu ruiner sa vie, la mienne. Donc, une grosse prise de conscience. Et puis, il vient vers moi. Il me tend la main. Et avec un grand sourire, il me dit « Ah bah, franchement, j'ai passé une super soirée. » Et il est parti comme ça. Je l'ai jamais revu. Je sais pas qui c'est. Enfin, en tout cas, lui, ça lui avait pas posé de problème plus que ça. Et il est parti. Moi, après, j'ai passé du coup le reste de la journée dans mon lit, vraiment au fond du gouffre. Et puis, grosse remise en question, donc prise de conscience que les choses avaient été beaucoup, beaucoup trop loin, que c'était à la base une blague, pas forcément de bon goût, mais qui aurait pu vraiment mettre fin tout simplement à ma vie, à la sienne. Donc, je me suis senti très, très mal. J'ai contacté ma grande sœur qui, dans ce genre de cas, était la personne vers qui je me tournais. Je lui ai jamais rien caché, donc je lui ai tout exposé. Et même si c'était pas une surprise, elle m'a expliqué que je déconnais, même si je le savais. Mais ça m'a fait du bien de l'entendre. Et suite à ça, j'ai pris la décision de tout simplement d'arrêter de boire complètement. Plus du tout fumer, plus du tout boire une goutte. Et ça m'a permis de me calmer.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Ramzi, j'ai 28 ans, je travaille dans la restauration depuis une dizaine d'années. Alors l'histoire que je vais vous raconter, elle se passe il y a 6 ou 7 ans. Bah, à cette époque-là, je bossais dans un bar gay sur Châtelet. C'était un samedi soir. Et à un moment, je descends aux toilettes. Et là, t'as une fille qui me rejoint. Et elle commence à me faire « Ouais, t'es trop mignon, à moitié un peu beurré la meuf ». Et elle me fait, ouais, j'ai trop envie de prendre ton numéro, j'ai envie qu'on se revoie. Et puis moi, je lui dis, ah, vas-y, pas de soucis, prends mon numéro. Et puis, je n'étais pas non plus désintéressé d'elle. Du coup, je lui donne mon numéro, mon service se termine. Et on s'échange des textos jusqu'au jeudi. Et au jeudi, je lui dis, bah, vas-y. Elle me dit, ouais, je suis en repos, tu veux passer à la maison. Je lui dis, ok, pas de soucis, j'arrive. Et elle m'envoie l'adresse, et là, je vois Chantilly dans le 60. Je dis, bon, bah, quand faut y aller, faut y aller. J'avais pas peur de l'aventure. Du coup, je prends le train, je commence à angoisser. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans? Mais pourquoi t'y vas? Allez, j'arrive à Chantilly. Et là, elle habite pas à Chantilly, même, elle habite à genre 20 minutes à pied de Chantilly. Je fais, putain. Du coup, j'arrive là-bas, il était à peu près 17h30, 18h, il commençait à faire nuit. Et je m'approche de cette maison, et là, j'entends un chien aboyer, genre « waf, waf, waf ». Et là, je commence à voir le palpitant qui s'emballe, je dis « putain, déjà que j'aime pas trop les clebs, alors en plus, ils sont agressifs ». Elle ouvre la porte, et là, le chien me saute dessus, « waf, waf, waf ». Je commence à dire « putain, j'ai trop peur, j'ai trop peur ». Le truc hyper angoissant, je rentre et je lui demande « Ouais, t'as pas un truc à boire ?» histoire de détendre un peu l'atmosphère. Et là, elle me présente sa petite fille qui s'appelait Jade, qui avait genre 2 ans. Et du coup, je prends la petite fille dans mes bras. Je dis « Ah, elle est trop mignonne, ta fille !» Et on commence à parler. Puis je lui demande « Ouais, tu fais quoi dans la vie ?» Et là, elle me dit « Bah, je suis flic municipal. » Et moi, dans ma tête, je me dis « Ah, j'ai jamais fait une flic municipal. Ça peut être quand même un truc que je pourrais raconter aux copains. » Et je lui dis « Alors, comment ça se passe, le boulot ?» Et là, elle me sort, non, ça se passe mal, les Arabes et les Noirs dans le quartier, ils me font chier. Je dis, ah merde, putain, elle est un peu raciste en plus dans ça. Et elle me dit, mais t'inquiète, toi, t'as l'air d'être un bon Arabe. C'est un peu gênant. Mais je fais un peu genre mine de pas comprendre, de faire, mais non, mais t'inquiète, ils sont pas tous méchants. Et à un moment, elle m'emmène dans sa mezzanine. Et là, je tourne la tête, l'horreur. Je vois que des posters de Johnny, des DVD de Johnny. Et je lui demande, t'aimes bien Johnny? Et elle commence à me pénave, elle me met du Johnny. Je fais, non. Et du coup, j'étais un peu genre, merde, qu'est-ce que je fous là? Et de plus en plus, mon cerveau reprend le contrôle et me dit, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Pourquoi je pars pas? Parce que... J'étais arrivé jusqu'ici et j'avais grave la dalle à ce moment-là. Ça faisait genre peut-être, je sais pas, peut-être quelques mois que j'avais pas trouvé une personne qui avait envie de moi. Sauf qu'à un moment, elle commence à me sauter dessus, elle commence à m'embrasser et je me laisse porter par le truc. En la déshabillant, je vois un tatouage sur son épaule en chiffres romains. J'étais curieux, je lui dis alors qu'est-ce que ça représente le tatouage? Et là, elle me regarde avec un regard hyper froid, genre ça, tu vois, c'est la date de naissance et de la mort de Jacques Mesrine. Et là, je fais merde, mais c'est qui cette meuf? De quelle planète elle vient? Je dis rien, je me laisse aller encore. Je commence à entendre le bébé chouiner un petit peu en bas. Et là, elle retire son pantalon. Et j'ai un temps d'arrêt. Et là, je vois qu'elle a la culotte toute rouge. Et là, je dis non, c'est trop. Je la repousse. Elle dit qu'est-ce qu'il y a? Je descends de la mezzanine, je cours et j'attrape son bébé. Et je lui dis non, c'est pas possible. Attends, on peut pas le faire. Ton bébé, il pleure et tout. Moi, ça peut pas. Je peux pas me permettre ça. Elle se rhabille, elle redescend. Et elle m'attrape et elle me fait, toi, t'es le mec le plus génial que j'ai rencontré. T'as refusé de me faire l'amour. T'as pu le plus prendre soin de ma fille. Du coup, je prends le bébé qui, dans la pièce, c'était peut-être la seule chose qui avait un peu d'âme encore à ce moment-là, entre moi qui avait la dalle, elle qui était très chelou, et le bébé entre nous. Faut que tu te barres, faut que tu trouves une solution. Du coup, je prends mon téléphone, j'envoie un texto à un pote, genre, appelle-moi. Discrètement, je le pose sur la table, le truc, j'avais mis à fond pour que ça sonne. Bip, 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 bip. Je réponds, allô? Ah, Malo, ça va? Ah, mais oui, c'est vrai que c'est ton anniversaire. Ah, mais merde, j'avais complètement oublié. 30 ans. Ah, mec, c'est trop important. Ah, j'arrive tout de suite. Paf, je raccroche. Et je lui dis, il faut que j'y aille. Elle me fait, mais tu veux pas rester, passer la nuit avec moi? Je lui dis, oh non, meuf, j'ai complètement zappé. Les 30 ans de mon pote, c'est hyper important. Faut que j'y aille. Je claque quand même un petit bisou sur le front du bébé. Et lui dire, bah, bonne chance pour la suite. Et là, elle ouvre la porte. Son klebs qui me saute encore dessus. Ouais, ouais. Je descends les escaliers à balles, je sors du truc et du coup je rentre sur Paris et j'arrive dans une énorme soirée et puis là je continue à faire la fête avec des potes en leur racontant cette histoire et ils me font t'es vraiment un gros malade.
Je m'appelle Hugo, j'ai 26 ans, j'habite à Rouen, je suis originaire du Havre. Je reviens donc régulièrement au Havre pour voir des amis et j'ai notamment un ami avec lequel, lorsqu'on sort le soir, lorsqu'on va au bar ou quoi que ce soit du genre, lorsque la soirée se termine, en fait, on n'a pas envie et on n'est pas forcément en état de rentrer chez nous directement. Et plutôt que de rentrer directement, se coucher et que ça tourne à fond dans le lit et qu'on n'arrive pas à dormir, bah, on préfère aller prendre l'air dehors, visiter des lieux abandonnés, rentrer dans des endroits un peu inédits pour se faire peur, pour s'amuser. Le but étant pas de vandaliser, de dégrader ou quoi que ce soit. Même si on a l'occasion de ramener un petit trophée ou un petit truc qui nous rappelle cette soirée-là, on va pas s'en priver non plus. Cette histoire a un peu commencé comme toutes les histoires d'exploration qu'on a avec le pote en question. On s'est retrouvés, en fait, la soirée se termine. Et voilà, on n'avait pas envie de rentrer sur le moment, et donc du coup on s'est dit, bon bah viens, on va explorer un peu des endroits qu'on connaît pas trop. Puis on s'est retrouvé en fait à errer un peu dans les rues, et à trouver un bâtiment qui avait l'air un peu officiel, un peu... On voyait que c'était pas des habitations. Donc on se retrouve, mon ami et moi, à rentrer dans ce bâtiment dont la porte était entrouverte, et donc à explorer ce bâtiment où il y avait des bancs qui étaient alignés, ça faisait très officiel, et en fait, en ouvrant les placards, etc., en fait, on a vu qu'il y avait des bibles un peu partout, que c'était un édifice religieux. Et donc, une fois qu'on a exploré un peu tous ces endroits, on se dit, bon, c'est pas possible, il faut qu'on parte avec un souvenir. Et nos yeux tombent tous les deux en même temps sur un énorme crucifix qui est posé sur le linteau d'une cheminée ou dans un coin, je saurais plus trop dire. Et on se regarde dans les yeux et on se dit ok, c'est obligé, on part avec, on se débrouille. Et on se retrouve donc à essayer d'embarquer ce crucifix en fer forgé, enfin qui pèse une tonne, qui fait 1 mètre, 1 mètre 20. En fait, le truc est tellement grand que du coup on a dû démonter le socle pour remettre le socle dans mon sac et sangler le crucifix sur mon sac à dos. Et ça nous a pris un temps monstrueux parce qu'on voyait un peu trouble, etc. Et donc du coup, nous voilà embarqués sur une balade à vélo avec l'énorme crucifix qui me pèse dans le dos et nous morts de rire en train de prendre des photos, d'en rire, etc. Jusqu'à arriver chez mon ami et à le déposer fièrement au milieu de son salon et à rigoler avec. Trois semaines après, le pote en question s'est rendu compte qu'en fait, un crucifix d'1 mètre 20 chez soi, ça prend de la place. Et donc, du coup, il m'a envoyé un message pour me dire « Bon, bah voilà, Hugo, je vais me débarrasser du crucifix, je vais le redéposer dans un hall d'immeuble, pas très loin de là où on l'a embarqué, pour qu'il soit retrouvé, etc. » Quelques mois passent, et un jour, je reçois le lien d'un article relatant que, en fait... le grand crucifix qui a été donc volé dans la grande aumônerie du Havre a été retrouvé dans un escalier. Alléluia, miracle, il a retrouvé sa juste place, etc. Appel à témoins. Donc voilà, l'histoire qui prend l'ampleur, on est recherché. Et donc du coup, j'envoie ça à mon pote avec qui j'étais ce soir-là. Et ce qui nous a beaucoup fait rire, c'est que du coup, il demande un signalement des personnes et que nous, on a nos téléphones qui sont bourrés de photos de nous en train de poser avec le crucifix dans l'ascenseur, dans l'appartement, dans la rue, sanglés sur le sac, etc. Et nous est même venue l'idée d'envoyer des photos de façon anonyme avec nos visages floutés pour qu'un ultime article paraisse juste pour rire et juste pour la gloire. Et au final, bah, cet article, il va peut-être sortir aujourd'hui. Cette histoire ne se terminera jamais.
C'était Des fêtes qui tournent mal, un reportage d'Alice Babin, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à PH, j'espère que c'est comme ça qu'on dit, à Ramzi, à Hugo, à Loulou, à Moussa et à Luis Gonzalez. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.